Bonjour à toutes et à tous. 15 minutes ensemble. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on remarque rarement, sauf quand il manque, le calme. Il existe une recommandation de bonne pratique sur les espaces de calme, de retrait et d'apaisement. Elle a été écrite pour l'accompagnement des personnes autistes. Mais ce qu'elle dit du bruit, de la stimulation et du besoin d'apaisement vaut pour beaucoup de nos résidents. Voici ce qu'on peut en retenir pour nous. Première idée. La surstimulation fait souffrir. Mettez-vous 2 minutes à la place d'un résident fragile, peut-être désorienté. La télévision du salon qui parle toute la journée. Les sonnettes. Les chariots dans le couloir. Les conversations croisées. La lumière des néons. Les allées et venues. Pour nous, c'est le décor du travail, on ne l'entend même plus. Pour une personne dont le cerveau filtre moins bien, c'est un bombardement permanent. Et ce trop-plein génère de l'angoisse, de la fatigue, et souvent ce qu'on appelle des comportements difficiles. Agitation, cris, opposition. Avant de se demander ce qui ne va pas chez la personne, la recommandation nous invite à nous demander ce qui ne va pas autour d'elle. Deuxième idée, le droit au repli existe aussi en établissement. Chez soi, quand on est fatigué du monde, on ferme sa porte. Ici, c'est moins simple. Et pourtant, chacun a besoin de moments de solitude choisis. Un moment seul dans sa chambre, un coin tranquille, le droit de ne pas être au salon avec tout le monde. Se retirer n'est pas s'isoler. Une personne qui cherche le calme ne fuit pas la vie de la maison, elle reprend son souffle. Notre rôle, c'est de respecter ces moments et même de les rendre possibles, au lieu de ramener systématiquement tout le monde au collectif. Pensez à monsieur qui demande à remonter dans sa chambre après le déjeuner, ce n'est pas forcément de la tristesse. C'est peut-être 60 ans de sieste tranquille qui continue. Troisième idée, repérer la saturation avant la crise. C'est peut-être le point le plus utile pour vous au quotidien. Avant le débordement, il y a presque toujours des signes, l'agitation qui monte petit à petit, les mains qui se crispent ou se posent sur les oreilles, le regard qui fuit, la personne qui se replie sur sa chaise, l'irritabilité inhabituelle, les allers-retours qui s'accélèrent. Qui voit ces signes en premier? Vous, pendant le repas, dans le couloir, au salon. Et là, la bonne pratique est simple, proposer le calme avant que ça déborde. Accompagner la personne vers sa chambre ou un coin tranquille, baisser la stimulation, parler doucement. 2 minutes au bon moment évite 1 heure de crise. Et chacun a ses signes à lui. Pour l'un, c'est le pied qui tape sous la table. Pour l'autre, les mêmes mots qui reviennent en boucle. Ces signes-là, vous les connaissez mieux que personne. Quatrième idée, aménager le calme, c'est l'affaire de tous. On n'a pas besoin de gros travaux pour commencer. Un coin du salon un peu à l'écart, avec un fauteuil confortable. Une chambre apaisante, rangée, sans télévision qui hurle, avec une lumière douce. Baisser le son du téléviseur commun, ou se demander, franchement, s'il doit être allumé toute la journée. Et puis regarder nos propres habitudes, les chariots qu'on pourrait pousser plus doucement, les portes qu'on peut retenir au lieu de les laisser claquer, les transmissions qu'on échange à voix haute dans le couloir, devant les chambres, les appels d'un bout à l'autre du service. Une part du bruit de la maison, c'est nous qui la fabriquons. C'est donc nous qui pouvons la réduire, sans budget, dès aujourd'hui. Cinquième idée, le calme est un soin. On a le réflexe de penser qu'apaiser quelqu'un, c'est faire quelque chose, parler, distraire, donner. Parfois, c'est l'inverse. S'asseoir à côté d'une personne angoissée, sans rien dire, juste une présence et 2 minutes de silence partagé, ça peut faire plus qu'un calmant. Ce geste-là est à la portée de chacun d'entre vous, aide-soignante, agent de service, aide médico-psychologique. Il ne demande aucun diplôme de plus. Il demande juste de considérer que le calme n'est pas du temps perdu. C'est un acte d'accompagnement à part entière, aussi sérieux qu'une toilette ou un repas. Et le calme s'offre aussi dans les gestes. Une toilette sans conversation entre collègues par-dessus la tête de la personne, c'est déjà un moment d'apaisement. Alors voilà la question pour nos 10 minutes. Elle est double. D'abord, où, chez nous, un résident peut-il être vraiment tranquille, à l'abri du bruit et du passage? Est-ce que cet endroit existe? Ensuite, qu'est-ce qui fait le plus de bruit inutile dans la maison? Et sur quoi peut-on agir, nous, dès cette semaine? C'est à vous.